Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Moundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au centre du forum de la presse de ce vendredi, trois régions, Tombouctou, Gao et Kidal. Pourquoi ? Parce que ces trois régions viennent de vivre un certain nombre d'événements, des événements qui ont chacun leur importance. Il s'agit de l'attaque très tôt ce matin d'un camp de l'aménagement et d'un checkpoint de l'armée malienne à Tombouctou, de la tension aussi à Gao, la tension provoquée par l'arrivée du vice-président du MNLA, Mohamed Djeri Maïga, le climat qui règne à Kidal après l'entrée dans la ville de la plateforme avec une cinquantaine de véhicules. Pour parler de tout cela, nous avons choisi quatre journalistes. Alousine Aladi, il est directeur de publication de la radio Djamana à Tombouctou, il sera en ligne. Nous aurons également en ligne Cheikh Amadou Djouara, il est journaliste et reporter de guerre, il se trouve présentement à Gao, lui aussi en ligne. Paul Ben, il est journaliste indépendant et en même temps correspondant quand même des médias allemands ici au Mali, il faut les souligner. Et enfin, dans ce studio, Idrissa Diko, qui est donc du journal Viva News, l'émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Studio Tamani.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Premier sujet du forum de la presse de ce vendredi, l'attaque perpétrée très tôt ce matin par des hommes armés contre un camp de l'aménagement et un checkpoint de l'armée malienne. On parle de 5 morts, dont un militaire malien. Sait-on quelque chose des assaillants à présent? La question s'adresse en premier lieu à Paul Ben.
Merci, M. Fomba. Comme tous les Maliens, nous avons appris avec stupeur l'attaque ce matin à 6h du camp nigérian de l'aménagement à l'entrée de la ville de Tombouctou par des assaillants. Bon, pour l'instant, les informations que j'ai en ma possession n'identifient pas les assaillants. On dit que c'est des terroristes, on ne sait pas qui c'est. Mais comme vous l'avez souligné, on déplore la perte d'un de nos militaires, le commandant qui dirigeait les opérations. Les informations qui me sont parvenues font état d'un mauvais manœuvrage du BERDEM, et c'est suite à cela que le commandant est décédé pour l'instant.
Maintenant, nous allons nous tourner du côté d'Idrissa Diko du journal Viva News. Je le disais, l'attaque contre un camp de l'aménagement, un checkpoint de l'armée malienne à Tombouctou, on en parle. Est-ce que vous savez quelque chose? Avez-vous appris quelque chose au sujet des assaillants? Qui sont-ils? Avez-vous une idée?
J'avoue que non. Je pense que je suis un peu comme tous ceux qui sont loin du terrain. Et nous suivons les événements dans la presse, mais aussi avec peut-être certains amis qui sont sur le terrain. Donc je ne pense pas être beaucoup plus informé que mon ami qui vient de parler. Et ce sont des attaques dont on attend toujours d'identifier les gens et de comprendre les circonstances. Une attaque, ça surprend toujours, même si au Mali, une attaque, ce n'est plus un fait extraordinaire.
Alors, nous allons joindre Alousine Aladi, le directeur de la radio Djamana à Tombouctou. On peut se rassurer certainement quand même que l'on sait mieux que nous. Alousine Aladi, bonsoir.
Bonsoir, M. Fomba.
Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est au juste passé ce matin à Tombouctou? Nous savons que c'est une attaque, mais on n'en sait pas grand-chose. Comment ça s'est déroulé et elle est perpétrée par qui? Est-ce que vous en savez quelque chose?
Alors, M. Fomba, ce matin aux environs de 6h30, Tombouctou a été réveillé par un de couleur grise et l'autre de couleur blanche. Alors, le véhicule de couleur grise est allé vers l'ancien camp de la police nigériane de la MINUSMA. Alors, vous savez que Boutinja est en train de déménager vers un autre site. Donc, on est en phase de déplacement. Le premier véhicule, qui est de couleur grise, est dirigé directement vers ce camp. Alors, selon un témoin en tout cas, au clair,
Alouseni Aladi, je crois qu'on va réessayer peut-être avec un autre numéro parce que la ligne est telle qu'on ne comprend plus rien de ce que vous dites. Nous reviendrons donc à vous dans un instant, le temps de nous rendre donc à Gao. À Gao se trouve Cheikh Amadou Diouara, il est journaliste et reporter de guerre. Dites-nous, Cheikh Diouara, vous suivez de près ce qui se passe certainement à Tombouctou. Qu'est-ce que vous en savez? Lui aussi, certainement, pour l'instant, injoignable, mais tout cela va rentrer dans l'ordre très rapidement. Le temps de retourner dans ce studio pour poser la question suivante à Paul Ben. Paul Ben, selon vous, que peuvent viser les assaillants, les gens qui ont donc perpétré cette attaque?
Vous savez, depuis un certain temps, ce qu'on appelle les terroristes nous ont imposé la guerre asymétrique, c'est-à-dire ce n'est plus le face-à-face, mais c'est la pose des mines, c'est les attaques surprises, c'est la terreur. C'est-à-dire faire une action pour se faire comprendre et la revendiquer autant se faire que peu. Et c'est ce qui continue. Vous savez, la semaine dernière, on a enregistré une attaque sur la route de Gao. Cette semaine, c'est Tombouctou. Et même dans la région de Kidal, ça se passe vraiment. C'est une guerre asymétrique qu'on nous impose. Et c'est ce qu'on vit. De toutes les façons, maintenant, ces gens ne veulent plus avoir de trophées, ils ne veulent plus. Il n'y a pas de revendication derrière tout ça. C'est vraiment. C'est terroriser les populations. C'est dire aux gens que nous sommes là, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Et c'est un peu ça.
Nous allons à présent pouvoir nous rendre à Tombouctou où se trouve Alouseni Aladi. On va donc suivre son récit à Alouseni Aladi et le fil des événements avec vous.
Oui, M. Fomba, comme je le disais au début, deux véhicules sont rentrés ce matin à Tombouctou. Mais bien avant que ces véhicules ne rentrent, ce que le commandant de zone nous a confirmé, en tout cas, ils ont été alertés hier par l'aménagement. Il a quand même dit qu'il y a quand même une menace qui plane sur la ville de Tombouctou. Alors là, vous savez, Tombouctou, quand même, c'est une vaste région. On ne peut contenir cette région et les moyens de l'armée, quand même, sont limités. Alors, c'est là que ce matin, ces deux véhicules sont rentrés dans la ville. Le premier véhicule est de couleur grise, le deuxième de couleur blanche. Donc, le véhicule de couleur grise, c'est ce véhicule qui s'est dirigé ce matin vers le bâtiment qui abritait le contingent nigérien de la MINUSMA, la police nigérienne de la MINUSMA. Donc, c'est suite à cela que ce véhicule s'est renversé. Lorsque le véhicule s'est renversé, après, ça a explosé. Et là, le deuxième véhicule de couleur blanche, ceux qui étaient dans ce véhicule, à bord de ce véhicule, ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer. Après, ils ont pris la direction nord-est, selon le commandant de zone, le colonel Oumar Diarra. Donc, c'est là qu'ils ont pris quand même les dispositions pour quadriller la zone, pour empêcher, en tout cas, à ceux qui ont occupé quand même la zone de pouvoir s'échapper. Ils étaient au nombre de deux. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les deux individus, en tout cas, qui ont perpétré l'attaque de ce matin, qui étaient quand même retranchés au sein de l'ex-base du contingent nigérien de l'armement, c'est des individus de peau noire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc c'est là que l'armée quand même a pris toutes les dispositions pour quadriller la zone, pour occuper en tout cas toutes les maisons abandonnées qui sont dans les alentours quand même du lieu de l'attaque.
À la mi-journée, Alouseni, on disait qu'il y avait toujours des tirs qu'on pouvait entendre. Alors finalement, comment que la situation se présente là où nous sommes?
Pour le moment, quand même, l'assaut a pris fin, mais ce soir, vers 16h, quand même, l'armée a prévenu la population qu'il y aura quand même une explosion. Donc, pour que la population ne soit pas dans la panique. Il fallait quand même l'armée prévienne les populations, parce que souvent, lorsqu'on entend des explosions, on a l'impression que c'est une autre attaque qui est en train de se produire.
Là, vous dites qu'il y aura, une explosion. C'est de quelle nature, cette explosion?
En fait, c'est les restes explosifs qui ont servi à l'attaque de ce matin. L'armée a procédé quand même à l'explosion.
C'est pour les détruire, c'est cela?
C'est pour les détruire, exactement.
Alors, à ce que nous sachions, il y avait quand même quelques éléments, toujours dans ces camps. Maintenant, côté bilan, d'abord le sort des deux de assaillants, et du côté maintenant de...
Les assaillants ont été abattus. Et l'opération, justement, a été entièrement menée par les forces armées maliennes, les FAMA. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ils ont été appuyés par le étrangère, l'opération a été entièrement menée par les FAMA.
Et le bilan précis, vous le savez?
Le bilan?
Oui.
Pour le moment, le bilan est en tout cas de 2 morts militaires. Les 2 assaillants ont été également tués. Il y a 6 blessés du côté de l'armée.
Alors, quelques soucis avec la liaison. Alors,
ont été attaqués et même à Kabara, 5 km, quand même 5 à 7 km du lieu de.
Alors, vous l'avez dit, un militaire malien mort, mais il serait mort suite. Enfin, c'est une mort accidentelle, selon ce que nous avons appris ici. Alors, nous vous retrouvons dans un instant le temps de joindre à présent Cheikh Amadou Diouara, qui est journaliste reporter de guerre. Il se trouve à Gao. Cheikh Diouara, bonsoir.
Bonsoir, Fonda.
Vous êtes à Gao, mais vous suivez certainement de très près ce qui se passe à Tombouctou. Votre analyse de la situation?
Bon, mon analyse de la situation, je pense que nous vivons le même scénario que l'hôtel Biblos de Sévaré et aussi à peu près la même aussi par rapport aux radissons de Bamako. C'est-à-dire que nous avons un groupe de personnes qui ciblent un endroit bien précis en fonction de sa fréquentation et des personnes qui peuvent s'y trouver, donc qui sont des cibles privilégiées. Donc, une attaque est planifiée et un assaut est lancé. Donc, l'objectif, c'est un bilan. Ceux qui vont mener cette attaque sont déjà résolus au sacrifice ultime. Donc, voilà. Et nous remarquons que c'est toujours 2-3 assaillants tout au. Même si à chaque fois, au début, on parle d'une dizaine ou souvent.
Alors, Cheikh Diouara, je crois que la liaison se dégrade. Nous allons pouvoir vous retrouver dans un instant. Pour l'instant, nous retournons dans ce studio. Idrissa Diko, vous êtes du journal Viva News. Vous l'avez entendu, le bilan, vous le savez maintenant. Alors, selon vous, qu'est-ce que ces gens-là peuvent viser? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent à travers ce genre d'action?
Bon, les terroristes, c'est pour créer la terreur. Donc, il faut saboter la quiétude qui est en train de quand même de s'installer petit à petit. Et ce qui peut poser d'autres questions, c'est que on se rend compte que bon, maintenant il y a pas de revendication précise et que bon, d'habitude il a parlé des Biblos.
Dites-la, vous pensez qu'il y en aura
quoi,
une revendication?
Oui, c'est possible. C'est possible, mais je vois par exemple qu'il n'y a pas, il y en a pas encore. En tout cas, je ne suis pas au courant. Oh, il y a des attaques qui sont spontanément revendiquées. Mais je constate que bon, cette attaque-là n'est pas dirigée par exemple contre les Blancs. Contrairement à ce à quoi on peut s'attendre habituellement, c'est que c'est des attaques contre les Occidentaux. Et je pense que de plus en plus, tout le monde, qu'on soit occidental ou noir ou autre, on doit maintenant se méfier. Donc moi, je pense que l'objectif, c'est entre autres de perturber la quiétude, de déranger un peu le processus de paix qui est en cours, parce que c'est dans ça qu'on se rend compte justement que la situation au nord est assez complexe, parce que si effectivement il y en a, c'est des narcotrafiquants et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix qui quand même est en train de s'installer. C'est au niveau de Kidal que c'était compliqué, mais à Tombouctou, je pense que le problème n'était pas très, très compliqué.
Oui, Paul Ben, en quelques mots.
Quelques mots. Mon confrère dit que l'attaque n'est pas contre les Blancs. Bon, les Blancs, c'est ça. Mais la MINUSMA, les Nations Unies, tout ce qui aide le Mali à recouvrer sa souveraineté, la paix, tous ces gens-là sont mis dans le même panier. Et les Nations Unies, quand vous êtes des Nations Unies, que vous soyez malien, c'est pas togolais ou américain, vous êtes dans le même panier. Donc c'est le même combat, quoi, contre la paix. C'est ça.
Studio Tamani, 18h30, la suite de cette émission après une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Après donc Tombouctou, nous allons nous rendre à Gao. Gao, une ville qui n'était pas très calme ce vendredi. La raison, c'est l'arrivée sur place du vice-président du MNLA, Mohamed Djeri Maïga. L'homme s'est dit bien intentionné, mais son arrivée n'a pas plu à tout le monde. Des jeunes sont sortis pour faire part de leur désapprobation. Il a fallu, semble-t-il, l'intervention même du gouverneur. Nous avons Cheikh Amadou Diouara qui est donc sur place, journaliste, reporter de guerre. Il en sait mieux. Nous allons donc l'écouter, Cheikh Amadou Diouara.
Bonsoir Fomba. Et moi, je pense que ce qu'il faut retenir de cette rencontre qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu, je pense qu'il y a d'abord eu une mauvaise communication et il y a eu aussi des jugements. Mais je pense que Mohamed Djeri, que j'ai rencontré il y a 2 heures, à son hôtel, les motels des Askia, me disait, écoute, moi je ne suis pas venu ici en tant que c'est moi, je ne suis pas venu ici en tant que MNLA, je suis venu en tant qu'un fils de Gao, je suis venu en tant qu'un enfant du territoire, en tant qu'un enfant du terroir, pour rencontrer mes frères de Gao et les recommander de bien vouloir s'unir, parce que quand tu arrives aujourd'hui à Gao, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a Gandakoy, il y a Gandaizo, il y a Semester, 1, 2, 3, il y a Compis 15, il y a ceci, cela. Je voulais juste les faire savoir qu'il faut qu'ils se réunissent pour qu'ils ne soient pas vraiment les orphelins, les mauvais perdants de ce processus d'accord, de DDR, etc. De l'autre côté, c'est pas entendu de la même oreille. Il y en a qui voient cette... visite de Mohamed Djeri et surtout de cet atelier qu'il aurait voulu tenir avec les jeunes comme une provocation, mais surtout comme une récupération de cette jeunesse de Gao qui était effectivement son principal challenger quand il est arrivé avec son projet d'azawadisation de Gao en avril 2012. Sous couvert effectivement de cet accord pour pouvoir essayer de récupérer. Donc, ce matin, comme vous le savez, le conseil régional de Gao devant habiter cette rencontre a été pris d'assaut par une foule en colère, déchaînée.
Des jeunes certainement.
Les?
C'était des jeunes qui sont sortis.
Pas seulement que des jeunes, il y avait des jeunes, mais surtout il y avait aussi certains groupes de la plateforme qui était là, mais il faut quand même savoir que c'était pas tout le monde, parce qu'il y avait une partie de la jeunesse qui était toujours pour cette rencontre et qui pense que l'approche par laquelle Djeri Maïga est venu vers eux mérite de le rencontrer et de l'écouter, tout comme d'autres qui pensent que cela est une provocation. Madame Mariam Maïga, conseillère municipale de Gao et aussi responsable de la plateforme, pense que c'est une récupération de la jeunesse de Gao et elle dit avoir des preuves palpables selon lesquelles Monsieur Djeri et Monsieur Kantao, tous responsables, leaders de la plateforme, auraient commissionner des précurseurs pour mettre des commissions CMA en place ici à Gao pour pouvoir détourner une partie de la population, une partie de la jeunesse pour les dérober de la plateforme et les amener vers la CMA. Mais quand vous écoutez, c'est
Alors, Cheikh Amadou Diouara, nous allons pouvoir vous retrouver dans un instant. Comme vous l'avez vu, la liaison n'est pas tout à fait bonne. On va essayer de la rétablir dans un instant. Nous retournons pour l'instant ici dans le studio. Je vois Paul Ben qui a vraiment envie de réagir.
Oui, j'ai vraiment envie de réagir parce que je crois que mon petit frère Cheikh Diouara ne lit pas beaucoup entre lignes. Peut-être qu'il n'est pas assez informé. Mamadou Djiri Maïga est parti à Gao avec un projet pour le DDR, pour le processus de DDR qui doit commencer bientôt. Mamadou Djiri Maïga est en train de chercher des combattants à qui il doit remettre des armes. C'est avec ce projet qu'il est arrivé à Gao. Je l'en informe. Il faut qu'il s'informe. C'est ce projet qu'il veut porter. Et je connais plusieurs personnes de bonne foi, je le déplore, qui font partie de ce projet. Des gens qui, des anciens élus de Gao, qui font partie de ce projet. Je déplore cela.
D'où vous les tenez?
Je tiens ces informations. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je détiens ces informations. Ce projet, je le connais. C'est des sources très sûres. Nous avons des confrères qu'on a approchés. On m'a approché moi-même, mais les gens qui m'ont approché ne me connaissaient pas très bien. Ils ont approché des confrères. Et ce projet, c'est ce projet que Mamadou Djiri Maïga veut amener pour recruter des jeunes, leur donner des armes, pour dire qu'il a des combattants. Et je crois que ça ne va pas passer. Je m'en tiens pour l'instant à cela sans rentrer dans certains détails, mais l'avenir nous en dira plus.
Alors, Cheikh Amadou Diouara est à présent en ligne, ça veut dire que la liaison est bien établie. Alors, Cheikh Amadou Diouara, j'espère que vous avez pu entendre Paul Ben qui réagissait à vos propos. Alors, je crois qu'il y a toujours quelques problèmes, mais ça va se régler assez vite. Alors, Cheikh Diouara, vous êtes en ligne.
J'ai malheureusement pas entendu ce qu'a dit mon confrère. C'est vraiment les réalités de Gao, les problèmes de réseau et autres.
En gros, il disait qu'il y avait quand même des choses qui ne disent pas leur nom, des plans, voilà, des dessous en réalité. Voilà. C'est ce qu'il disait. En gros, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que la mobilisation de ce matin est due quand même à un grand balai médiatique qui a lieu hier soir sur la célèbre radio locale de Gao, la radio Adar Koïman, où il y a eu des interventions de certains membres de la plateforme qui ont essayé de brandir, selon eux, des preuves qu'ils ont M. Kantao du CMFPR2, donc membre de la CEMA et aussi de Mamadou Djiri, aurait entretenu des manœuvres effectivement pour mettre des cellules entre guillemets dormantes de la CEMA et autres qu'ils auraient. Mais moi, je ne suis pas non plus d'accord de dire que Mamadou Djiri vient mettre des comités à Gao pour prouver qu'il a des combattants, parce que ceux avec lesquels il est, c'est-à-dire la CEMA, savent que il n'a pas de combattants à Gao. Mais par contre, je pense aussi que qu'il vienne faire cette rencontre est très mal perçu par une certaine partie de la population, mais aussi, je disais tout à l'heure, le président national de Gandezo, Sédou Cissé, disait que Monsieur Djiri est venu à Gao d'abord, et Kantao sont venus à Gao d'abord pour présenter leurs excuses aux populations de Gao par rapport à tout ce qui a bien pu se passer depuis 2012, et leur faire croire qu'ils voudraient bien qu'ils soient solidaires, qu'ils se mettent ensemble par rapport à l'accord de paix pour qu'ils ne sortent pas perdants.
Oui, je crois que vraiment il faut comprendre certaines choses, il faut vraiment s'informer. Mamadou Djiri Maïga, il a derrière la tête un projet qu'il veut mûrir, et concernant le DDR qui va être mis en œuvre tout à l'heure, il est arrivé à Gao, ça fait plusieurs mois que maintenant l'apaisement est là, il pouvait retourner à Gao. Actuellement, il est reparti à Gao avec Kantao qui est un dissident de CMFPR. Ils sont partis à Gao pour mûrir leur projet de recrutement de combattants pour pouvoir avoir leur part du gâteau dans cette affaire de DDR. Ça, je te le dis, Cheikh, je le dis, il faut bien comprendre, il faut bien chercher. Tu es un bon journaliste comme moi d'investigation, il faut bien rechercher. Il a un projet, ça a commencé ici à Bamako. Il y a beaucoup de gens qui ont été contactés. Et vraiment, ce n'est que vraiment justice si les gens de Gao se lèvent pour dire que Mamadou Djeri n'a pas le droit de venir à Gao pour soi-disant organiser des rencontres. Il peut le faire ailleurs.
Cheikh Diouara, puisque vous êtes interpellé par votre collègue, on va rapidement, très rapidement suivre votre réaction avant de nous rendre quand même à Tombouctou, où nous attend Alousine Aladi.
Fomba, en fait, moi, je reste juste dans mon rôle de journaliste, c'est-à-dire je n'apporte pas de jugement de valeur, je rapporte les faits. Ce qui a été dit par ceux qui sont pour cette rencontre ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que ici à Gao, comme je l'ai dit, une partie de la population trouve insultant que Mamadou Djeri vienne vouloir s'entretenir avec la jeunesse de Gao. Une autre partie pense que après les accords, il est venu pour présenter des excuses et tout ça, il va falloir l'écouter. Mais aussi, nonobstant tout cela, il faut aussi savoir qu'il y a une partie qui ne sont ni d'accord qu'il rencontre la jeunesse, ni même d'accord qu'il revienne à Gao parce qu'il pense qu'en 2012, il a été celui qui a eu les propos les plus durs à l'égard des valeurs républicaines, à l'égard de la maliénité de Gao et tout ça, et qui voulait vraiment faire de Gao une partie intégrante dans leur projet Azawad du MNL.
Alors maintenant, direction Tombouctou. Alousine Aladi, je sais que vous suivez de très près ce qui se passe à Gao. Vous avez entendu les différents commentaires, la visite de Mohamed Djeri Maïga. Y a-t-il des dessous? Y en a-t-il pas? Tout compte fait, il tient un discours quand même qui semble très positif, un discours réconciliateur. Mais tout de même, il y a un problème parce qu'il y a quand même une partie des habitants qui désavoue, qui n'est pas d'accord avec son arrivée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Monsieur Fomba, moi, je dirais que je suis un peu partagé entre mon frère Chef Douara et Paul Ben. D'abord, Mamadou Djeri, je suis tout à fait d'accord qu'il soit comme dans une logique de demander pardon aux habitants de Gao après tout ce qui s'est passé en 2010 avec tout le topo, comme l'a dit Cheikh Mamadou Diouara, il y a tous les propos qu'il a tenus. Et je vois mal une grande partie aujourd'hui de la jeunesse de Gao accepter Mohamadou Diri après tout ce qu'il a dit en 2012, le fait de refuser, comme l'a dit Diouara, la malignité de Gao. Et aussi de s'inscrire dans une logique de revendiquer tout ce qui est valeur de la Zawane. Alors je vois aujourd'hui une grande partie quand même de la jeunesse, de la population de Gao, accepter aujourd'hui Mohamadou Djeri, qui d'ailleurs lui-même le dit, après tous les dégâts subis quand même par les habitants de Gao, les habitants de Gao en tout cas auront du mal à accepter Mohamadou Djeri d'emblée avec ce genre de discours. Mais aussi du côté de Paul Ben, je suis un peu en tout cas d'accord avec ce que Paul Ben a dit, parce que par rapport au DDR, nous sommes en train de voir beaucoup de réalités. Avant, beaucoup de groupes nous parlaient d'un certain nombre de combattants, certains parlaient de 3000, certains parlaient de 5000 peut-être. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir un problème face à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui sont en train de chercher par-ci, par-là, des combattants. On voit à longueur de journée les gens, ça passe sous nos yeux, les gens en train de chercher des combattants, des groupes sont en train de chercher des combattants par-ci, par-là. Et on voit en fait la réalité aujourd'hui avec le processus de cantonnement, le processus de DDR. Donc c'est justement pour ça que je dis que je suis un peu partagé entre les propos de Cheikh Diouara et en tout cas ceux de Paul Ben.
Alors, nous vous retrouverons dans un instant. Alors, Idriss Adigo, vous êtes du journal Viva News. Est-ce que vous comprenez que l'arrivée du vice-président du MNLA à Gao suscite un tel tollé? Votre explication.
Bon, mon confrère de Tombouctou vient de dire qu'il est partagé entre les deux opinions. Moi, je dirais que c'est Djeri Maïga lui-même qui aurait dû nous départager s'il avait eu l'occasion de dire, de livrer son message à Gao. Pour le moment, il est difficile de faire beaucoup d'extrapolations. Mais enfin, en tout état de cause, c'est que, quelles que soient les raisons qui l'amènent, on peut dire qu'il y a de l'indélicatesse quand même dans la démarche de Yeri, dans la mesure où c'est quand même, il est recouru pour être de l'aile dure de MNLA, ceux qui étaient même contre la République, les symboles même de contre la République du Mali. Et aujourd'hui, repartir à Gao pour jouer les bons offices, je pense que c'est vraiment indélicat. Et on ne pouvait que s'attendre à ça. Il est difficile aujourd'hui pour lui, quel que soit le calcul dans lequel il est, d'aller comme ça se livrer à la population de Gao et de convaincre qu'aujourd'hui il est devenu le bon citoyen de Gao et du Mali pour qu'il puisse leur donner des conseils, des avis pour quelque intérêt que ce soit. Moi je pense que c'est indélicat de sa part et qu'il a choisi un rôle dans l'histoire, il est important qu'il l'assume.
Et pourquoi, voilà. Pourquoi il n'a pas fait ça avec toute la société civile? Pourquoi il ne prend que la jeunesse? C'est la question que moi je vais poser à ceux qui supportent. Pourquoi?
Je pense même qu'il aurait pu, si c'est une histoire de combattants, il aurait pu faire la même chose que ceux qui sont dans les mouvements de résistance, Ganda Koy, Ganda Izo et autres, qui eux ne sont pas rejetés par les populations de Gao. Donc aujourd'hui, il ne peut pas être en même temps le bourreau de la République et revenir aujourd'hui jouer à l'agneau, c'est impossible.
À Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Après Tombouctou et Gao, nous allons maintenant nous rendre à Kidal. À Kidal, où la plateforme a donc effectué une entrée impressionnante, une entrée précédée par des récentes rencontres. On dit que c'est quelque chose d'ailleurs prévu par l'accord. On croyait les partis d'accord sur la question. Pourtant, voilà, l'arrivée de la plateforme a suscité des grincements de dents, pour ne pas dire plus. Alors, votre commentaire, Paul Ben?
Vous dites des grincements de dents, moi je ne sais pas. Les grincements de dents, c'est du côté de la communauté internationale ou du côté des Maliens? De la CMA et de la plateforme.
Vous avez suivi quand même les réactions de la plateforme qui demande d'ailleurs déjà le retrait.
La CMA
qui demande le retrait de la plateforme.
La CMA a demandé le retrait. C'était un message téléguidé. Hein. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, actuellement à l'heure où je vous parle, tous les gens sont à Kidal. Tout le monde est à Kidal. Aujourd'hui, vers la mi-journée, toute la plateforme est rentré à Kidal. Ils occupent le côté nord-est de Kidal, plus précisément sur la sortie Tessalit Indelban. Tout le monde est rentré à Kidal. Même les gens qui étaient à Takalot, à 25 km de Kidal, en négociation, tout le monde est retourné.
Vous parlez donc des éléments de la plateforme.
Tout le monde est venu à Kidal. La CMA, la plateforme, tout le monde est à Kidal à l'heure où je vous parle. Le mardi, quand ils sont rentrés à Kidal, c'est une ouverture qu'on a faite. C'est l'aile politique de la plateforme qui a précédé. Et après, il y a quelques véhicules de la branche armée qui sont rentrés. Ça a grincé certaines... Ça a frustré certaines personnes, surtout la communauté internationale. La MINUSMA, vous avez vu, la MINUSMA n'a pas fait de communiqué jusqu'à présent.
Elle n'a pas du tout réagi.
Justement, parce que c'est positif. C'est positif. Peut-être qu'on va en revenir, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, tout le monde est à Kidal. Tout le monde est à Kidal.
Direction Gao, où se trouve Cheikh Amadou Diouara. Alors, dites-nous, Cheikh Amadou, vous suivez ce qui se passe à Kidal, la plateforme qui est donc sur place, ça a provoqué la tension. C'était prévisible, non?
Évidemment, bon, déjà, il faut quand même savoir que cette entrée de la plateforme à Kidal a été précédée de rencontres qui ont porté sur des négociations par rapport à la rentrée d'un certain nombre d'éléments de la plateforme. Mais déjà, il faut savoir quand même, moi j'étais à Inhalil, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne, il y a quelques semaines, il y avait déjà la plateforme qui était là, il y avait le Gatia, il y avait le MAA pro Bamako qui était là, ils étaient un peu partout dans la région de Kidal. Donc, moi je pense que d'abord, il faut que nous sachions que cela peut être considéré comme un non-événement. Mais après, c'est vrai que la CEMA a réagi, a demandé le retrait, mais il faut quand même savoir que la communauté, il y a une survente de cette histoire par la communauté internationale. Au moment où déjà sur certains médias, on parle de regain de tension, on parle de possibles, de probables affrontements imminents et tout ça, il était très loin de ça. À Kidal, il y avait encore des éléments du MNLA qui partageaient le repas avec des éléments de la plateforme, de Gatia et autres. Donc je pense qu'il y a vraiment une survente de ça. Nous savons que la communauté internationale a tellement flippé là-dessus que je pense qu'elle a un peu exagéré par rapport à l'appréciation. Mais il faut quand même savoir que...
Elle n'a pas réagi justement jusqu'ici, cette communauté internationale. Comment est-ce que vous comprenez cela?
Je pense que la communauté internationale a pris une avance sur laquelle elle-même elle s'est rendue compte qu'elle a certainement exagéré. Alors donc, pris maintenant entre le marteau et l'enclume, elle ne sait plus quoi faire, donc elle a préféré de se taire. Elle a préféré se taire parce que aux premières heures, elle a vraiment exagéré dans son appréciation de ce qui s'est passé et de sur quoi ça et cela peut aboutir. Donc en ce moment, ils se rendent compte qu'ils ont exagéré et là, ils font attention. Quand on essaye de voir, la CEMA se trouve à la porte de Gao. La CEMA est à Tidaoker, c'est à quelques kilomètres de la ville de Gao, pas dans la région, mais de la ville de Gao. On est à 20 ou à 30 kilomètres de Gao. Déjà, vous avez la CEMA qui est là. Ça n'a jamais été un scandale. Il y a la plateforme qui est à Halil, qui est dans la région de Tessalit, ça n'a jamais été un scandale. C'est pas leur rentrée dans la ville de Kidal qui serait quelque chose d'aussi extraordinaire qu'on croirait qu'il y aurait des affrontements. Aujourd'hui, on est à une autre étape des accords, à moins que eux, en tant que communauté internationale et partie prenante de l'accord, n'y croient pas. Si tant il est vrai qu'ils sont d'accord avec cette avancée, je ne vois pas pourquoi il faut paniquer, pourquoi il faut flipper sur cette rentrée de la plateforme dans la ville de Kidal.
Idriss Sadiko.
Bon, moi je pense que la crise au nord a fait beaucoup de spécialistes quand même du nord Mali. Si bien que chaque fois qu'il y a un événement, des organes de presse très éloignés du Mali disent tout de suite, voilà, donner des informations sur. Ce n'est pas toujours vrai. Et il a posé une question très pertinente, à savoir qui est ému par cette rentrée de Gatia à Kidal. Est-ce que c'est la CMA ou bien c'est certains de la communauté internationale? Parce qu'il l'a dit, les acteurs même du terrain ne s'en plaignent pas. Ni la MINUSMA, ni même la CMA. On a suivi comment ça se passe. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. À chaque fois que le Gatia fait un mouvement, il lance des communiqués, ils sont très virulents. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que si les frères ont décidé de faire la paix, il ne faut pas en rajouter sur le feu.
Alousseine Aladi, en ligne, directeur de la radio Djamana à Tombouctou. Alors, Alousseine, votre analyse des récents événements à Kidal, autrement dit, l'entrée de la plateforme qui est donc entrée dans la ville avec quand même des dizaines de véhicules.
Oui, comme l'a dit les autres confrères, on fait de cela un scandale, alors ça n'en vaut pas la peine. Ce que nous savons tous, la plateforme est rentrée à Kidal après des concertations avec la CMA sur quand même la gestion commune de la ville de Kidal. Et même d'après le communiqué même de la CMA, c'est que les résultats des concertations données, la CMA consent en tout cas à l'admission des pouvoirs membres de la plateforme dans chacune des sous-commissions de gestion de la ville de Kidal. Et les questions militaires, les questions de sécurité, la CMA l'a jugé trop complexe, donc ils ont renvoyé ces questions-là à d'autres concertations et que la plateforme de la CMA va se concerter avec la plateforme courant TV. Et le seul problème aujourd'hui, c'est seulement l'entrée de la plateforme dans la ville de Kidal. Il n'y a aucun problème, on pense qu'il y aura, des affrontements entre la plateforme et la CMA. Alors, on est loin de cela. Et seulement, le seul problème, c'est que la CMA demande à la plateforme de se retirer et que lorsque la CMA décide qu'elle doit se concerter avec la plateforme sur les questions de sécurité, les questions trop complexes, là, ils peuvent parler de la gestion commune de la ville de Kidal.
Oui, mais dites-le.
Ce n'est vraiment pas un problème. Et ce que les autres confrères, d'ailleurs, ont dit, c'est qu'on parle beaucoup de ce problème. Les médias internationaux parlent beaucoup de ce problème. Alors qu'ici, on sait que la réalité est tout autre. Ce qui, en fait, envenime un peu cette situation.
Mais dites à Lucien Aladi, je pense qu'il est logique quand même d'avoir quelque part des craintes, parce que quand la CMA demande à la plateforme de se retirer, alors si elle ne le fait pas à la longue, à quoi cela peut mener? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce niveau?
Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que d'abord, la plateforme est rentrée à Kidal sans coup de feu. Et ce qui a précédé cela, c'est quand même des concertations. Je pense qu'aujourd'hui, avant qu'on en arrive là, il y a la communauté internationale aujourd'hui qui est en train, on le dit, en train d'envenimer cette situation. Et cette communauté internationale et tous les acteurs qui sont en train aujourd'hui d'œuvrer dans le cadre du retour définitif de la paix dans le nord du Mali, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'affrontement entre les deux parties.
Oui, moi je voudrais un peu ajouter à ce que mon confrère vient de dire. Quand vous dites que la plateforme est entrée à Kidal aujourd'hui, non. Moi j'ai quitté Kidal en décembre et bien avant. Si le Gatia fait partie vraiment de la plateforme, le drapeau du Gatia flotte à Kidal depuis plusieurs mois. Et la branche politique de la plateforme est à Kidal depuis des mois. C'est maintenant que la branche armée est venue. Sinon, la branche politique est là depuis des mois. On n'a pas crié au scandale. La MINUSMA est là-bas, Barkhane est là-bas, les forces spéciales françaises sont là-bas. Ils n'ont rien dit. Mais qu'on nous dise aussi, qu'on crie aussi au scandale quand on entend que Barkhane, par exemple, finance des opérations de couvre-feu ou qu'elle finance des unités antiterroristes du MLA, qu'on crie aussi au scandale. Il ne faut pas qu'on fasse des informations de deux poids, deux mesures. Il faut qu'on en parle aussi.
Mm-hmm. Alors, du coup, en quelques mots.
Je voudrais ajouter que quand même, la CMA elle-même est courante avec elle-même cette fois-ci, parce que vous avez suivi les nombreux affrontements qu'il y a eu le terrain, Menaka et autres. Et il y a eu des accords, entre guillemets, de libre circulation, c'est-à-dire dans les différentes zones, que la CMA peut se rendre sur les terres aussi, entre guillemets, de la plateforme et vice-versa. Et je pense que depuis, c'était la réalité pour la CMA. La CMA avait allé et venait sur les terres de la plateforme. Et cette fois-ci, si la CMA ne dit rien quand la plateforme arrive, je pense que ce n'est que logique, honnêtement.
Juste début janvier, hein, pour un dernier mot. Début janvier, il y a eu une grande réunion à Gossi et tous les mouvements étaient là-bas. Même la CMA était présente, tous les mouvements. Donc vraiment, moi je crois que c'est un non-événement. Hein.
Alors, Cheikh Amadou Diawara étant toujours en ligne, on va lui réserver le mot de la fin.
Alors, moi je pense que les confrères ont bien décortiqué cette histoire et j'aimerais vraiment tirer mon chapeau à Idrissa Diko. Je pense que cette crise, effectivement, dans le nord de ce pays, a créé vraiment des spécialistes de fait. J'ai vu, effectivement, depuis avant-hier. Je vais quand même profiter pour vous faire ce témoignage. J'étais sur le tarmac de l'aéroport de Gao quand le chef d'état-major de l'AMINUSMA est arrivé avec le correspondant de France 24 de RFI en destination de Kidal et qu'il venait de recevoir le message que le Gatia venait de rentrer très tôt à Kidal. Et c'est là qu'ils ont décidé d'annuler leur voyage parce qu'ils étaient en partance pour Kidal, parce que le Gatia est rentré. Et c'est de là que tout est parti. Et c'est à partir de ces dépêches et de ces SMS envoyés dans les rédactions depuis le tarmac de l'aéroport de Gao que tout s'est embrasé. Et je pense qu'il y a eu des très mauvaises interprétations, malheureusement, des confrères. Et surtout des rédactions ailleurs et de ces spécialistes de fait qui sont venus effectivement raconter ce qu'ils pensent, qui certainement est loin de la réalité. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le même jour, des responsables, des chargés de communication de la SEMA ont posté sur les pages Twitter, Facebook et autres.
Merci, merci cher Amadou Diouara. Malheureusement, le temps est presque fini. Il ne reste donc qu'à vous remercier les quatre participants. Alucine Aladi, directeur de la radio Djamana Tombouctou, Idrissa Diko, journal Viva News. Cher que je viens de joindre Paul Ben, journaliste indépendant, réalisation Ousmane Diadje Touré, mise en onde Gagné Kanté. Régie vidéo Malik Kansai, présentation Seydou Fomba. On se retrouve le lundi.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.